Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc le plaisir d'accueillir Gilles Rahmstein, qui est directeur de recherche, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il l'a marqué, hein, au commissariat à l'énergie atomique, mais il a aussi un labo CNRS et il est au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Gilles est bien connu dans la communauté internationale en tant que modélisateur du climat. Et comme je vous le disais ce matin, on s'est rencontrés dans le cadre des programmes transdisciplinaires qui ont été proposés par le CNRS dans la dernière décennie. Et on a appris l'un et l'autre combien on pouvait collaborer, on ne le savait pas vraiment avant. Et vous verrez comment, à partir des données, par exemple, récoltées par les paléontologues, comment les modélisateurs du climat peuvent proposer des choses. Ceci étant, il va, je crois, essayer de vous retracer ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir aussi, c'est souvent un peu comme les hominidés, sur le climat et l'évolution du climat sur notre planète. Vous pourrez naturellement aussi, parce qu'il sera peut-être plus modeste sur ce point, l'interroger à la fin sur « Et demain, que se passera-t-il » En tout cas, Gilles, à toi la parole.
Merci, merci Michel. Bon, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de venir ici. D'abord parce que j'ai eu la chance d'être responsable d'un programme scientifique pluridisciplinaire et de rencontrer Michel. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important, vous allez le voir au cours de l'exposé. Mais aussi parce que finalement, Michel et ses collègues sont à la quête de la compréhension, finalement, de l'émergence de l'homme. Et là où ça rencontre beaucoup le questionnement que j'ai, c'est, et qui va être tout au cours de cet exposé présent, c'est finalement le suivant, c'est de se dire, voilà, on a une planète, donc vous la voyez, c'est la Terre, elle est belle, elle est bleue et elle est verte, elle a un albédo, c'est-à-dire un pouvoir réfléchissant de 0,3, hein. Si c'était une boule de glace, ce serait 0,6, et puis si c'était une boule noire, ce serait presque 0,1. Et donc, elle est là et elle abrite la vie. Et on est dans un moment de l'histoire des sciences où on va être capable de regarder d'autres planètes en dehors de notre système solaire, des exoplanètes. Bon, pour l'instant, on regarde des exoplanètes à 2, 3, 10 Terres, mais bientôt, on pourra descendre à des planètes qui auront une masse qui sera similaire à celle de la Terre et détecter de telles exoplanètes. Et on espère, évidemment, y découvrir la vie. Donc, la question de comprendre pourquoi sur Terre, depuis 4 milliards d'années et quasiment sans discontinuité, il y a eu de la vie, donc de l'évolution, c'est une question qui est pour moi centrale sur toute l'histoire de la Terre, y compris en Afrique, il y a 7 millions d'années. Alors, en fait, j'ai observé que dans cette magnifique amphi, les sièges n'étaient pas équipés de ceintures de sécurité. Et en fait, c'est un peu dommage parce que je vais vous amener en une heure à faire un voyage à travers presque 4 milliards d'années. Donc, accrochez-vous bien. Ce n'est pas parce que je vous dis de vous accrocher que je vais aller vite. C'est parce que beaucoup de concepts vont apparaître. Et c'est pour ça qu'il faut bien vous accrocher. De toute façon, on aura du temps après l'exposé pour en discuter. Alors, pardon. Juste là. Voilà. Alors, avant de partir dans des discussions sur la stabilité du climat terrestre, on peut regarder à gauche et à droite, c'est-à-dire en fait les planètes les plus proches, pour voir ce qu'il en est. Alors vous regardez par exemple Mars, qui est plus éloigné du Soleil, c'est une planète aujourd'hui avec 6 hectopascales de CO2, il fait froid sur Mars, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau liquide, il y en a peut-être eu. Alors une chose intéressante sur Mars, des choses qu'on ne connaît pas bien, c'est que sur Mars, comme sur Terre, hein, quelqu'un qui s'appelle Lascar, qui est très connu, qui travaille au Bureau des longitudes, a montré que l'obliquité, c'est-à-dire en fait l'axe qu'il y a entre les pôles de Mars et le plan de l'écliptique, il varie. Alors, vous allez me dire, quelle importance climatique ça a ? Ça a une importance climatique énorme. C'est que si votre obliquité peut varier de façon extrêmement importante, votre climat va aussi varier de façon extrêmement importante. Alors, à l'échelle de millions d'années, sur Mars, l'obliquité varie. Elle varie sensiblement et ça permet de calculer le climat martien il y a des millions d'années. Et en particulier, un collègue du LMD qui s'appelle François Forger a montré qu'en faisant ça, en calculant les endroits où les calottes se déplaçaient au fur et à mesure que l'obliquité se déplaçait, on pouvait parfaitement rendre compte des lieux sur Mars où on voit des éboulis rocheux striés. C'est l'endroit d'anciennes calottes de glace. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que déjà, une particularité de notre Terre, c'est que contrairement à Mars, qui a deux mini-satellites, notre Terre a la Lune. Et ce même Lascar a montré que le fait que la Terre est un satellite, qui est la Lune, ça oblige l'obliquité terrestre à se mouvoir dans un range qui est dans un spectre qui est extrêmement petit, de l'ordre de plus ou moins 1 degré. Ça veut dire que le climat terrestre, du coup, est régulé déjà. On n'a pas de possibilité de très grande variation de l'obliquité. Alors, maintenant, sur Mars, on peut voir que sur des millions d'années, l'obliquité a bougé, mais ça ne change pas le fait que les températures sont incompatibles avec de l'eau liquide. Alors, on espère en trouver sur Mars très très lointaine, mais on n'a aucune preuve de ça pour l'instant. Alors maintenant, sur Vénus, à droite, près du Soleil, Vénus, 450 degrés de surface. Si vous regardez Vénus avec un télescope, vous ne verrez pas Vénus, vous verrez l'atmosphère de Vénus pour laquelle on a envoyé récemment SPICAM Vénus qui va permettre d'avoir des informations sur cette atmosphère. Cette atmosphère est très dense, elle contient des gaz à effet de serre et ce sont ces gaz à effet de serre qui expliquent la température de Vénus. Alors qu'est-ce qu'il en est de la Terre ? Ben, la Terre, c'est très différent. La Terre, aujourd'hui comme hier, ce qui est extraordinaire, aussi bien au moment de Toumaï qu'au moment des dinosaures, qu'au moment des premiers reptiles, qu'au moment de la colonisation terrestre il y a 450 millions d'années, la Terre subissait un climat relativement équilibré et stable qui a toujours été compatible avec la vie. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je pense que quelques-uns d'entre vous ont entendu parler d'un concept qui est maintenant vieux d'une trentaine d'années, de Lovelock qui s'appelait Gaïa, qui disait qu'en fait, la Terre était, d'une certaine façon, autorégulée par la vie. Bon, c'était très, très intéressant comme concept, très séduisant, assez peu basé du point de vue physique. Là, je vais vous montrer des raisons qui expliquent pourquoi, effectivement, pour des raisons assez complexes d'ailleurs, enfin pas du tout évidentes a priori, la Terre a été régulée au cours des temps géologiques. Alors, d'abord, une histoire qui est commune à Mars, à la Terre et à Vénus, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est un réacteur nucléaire, et ce réacteur nucléaire, comme tous les réacteurs nucléaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord brûler leur hydrogène, puis leur hélium, et ensuite, ça va assez mal se passer. Mais au fur et à mesure qu'ils brûlent leur hélium, ils deviennent plus lumineux, et donc l'insolation reçue par la Terre ne cesse d'augmenter, hein, à peu près à un rythme de plus 7%, par milliard d'années. Alors, si vous réfléchissez à ça, et donc si vous vous dites qu'il y a 4,6 milliards d'années, la Terre recevait 30% de moins d'insolation, alors il n'y a qu'une seule solution. Alors bon, je la figure comme ça, mais c'est celle-là. C'est que si toute chose égale par ailleurs, dans n'importe quel modèle, même des modèles qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire 0D, c'est-à-dire extrêmement simple, des modèles ponctuels de la Terre, vous tombez sur une Terre boule de neige, comme Vénus, comme Mars. Pourquoi ? Parce que le Soleil jeune est un Soleil faible et que la Terre est très sensible à l'insolation du Soleil. Donc, en fait, vous avez normalement une Terre qui aurait dû être glacée pendant des milliards d'années et puis se déglacer au fur et à mesure que le Soleil monte. Heureusement, sur Terre, on a des données. Comme disait Michel, il pensait aux données paléontologiques, mais là, il ne s'agit pas de données paléontologiques. Mais on a des données, plein de données, qui nous permettent de savoir que, bien au contraire, sur Terre, il a fait chaud. Il a fait très chaud pendant les 4 premiers milliards d'années, ce qu'on appelle l'Archéen, puis le Protérozoïque. Il a fait très chaud. On a très peu de glaciation. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le paradoxe du soleil jeune. Alors évidemment, ce n'est pas dans le contexte actuel où on ne parle que de gaz à effet de serre, la solution vient à l'esprit de chacun. La solution, c'est qu'évidemment, il y avait à l'époque des gaz à effet de serre suffisamment nombreux et suffisamment forts pour contrebalancer complètement le soleil jeune et faire que la Terre, en fait, bien qu'elle ait connu un soleil jeune, ait été chaude. Alors, si on fait un peu d'histoire des sciences, on peut revenir sur les hypothèses. Bon, le fait que ce soit des gaz à effet de serre qui ont protégé la Terre de l'englacement qui aurait été inéluctable compte tenu du soleil jeune, ça c'est clair. Maintenant, quel gaz à effet de serre? Alors, il y a Sagan, qui est un astrophysicien très connu des années 70, qui a proposé l'ammoniac, NH4, qui est un très bon gaz à effet de serre. Mais ça ne marchait pas, l'ammoniac, parce qu'en fait, la Terre n'est pas oxyque à ce moment-là, de toute façon. Elle ne devient oxyque qu'à 2,4 milliards d'années. Par contre, un autre gaz à effet de serre qui est maintenant très populaire, qui a été proposé, c'est le CO2. Alors, pourquoi? Parce qu'un gaz à effet de serre, il faut qu'il puisse avoir une source et un puits. Ben pour le CO2, c'est très simple. La source, c'est le volcanisme, et le puits, c'est l'altération-érosion à travers le fait que quand il pleut, eh bien, la pluie dans une atmosphère où il y a du CO2 s'acidifie. Lorsqu'il pleut, les minéraux sont dissous, puis emmenés vers la mer, puis sédimentés au fond des océans, et puis ensuite subductés, et les volcanismes le ramènent. Donc, si vous voulez, vous avez un cycle du carbone, comme ça, qui est en fait un puits, c'est-à-dire quelque chose qui fait partir le CO2 de l'atmosphère. Donc, ça a toujours existé, et donc, on pense que le volcanisme était la raison pour laquelle on avait un CO2 très puissant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 380 ppm dans l'atmosphère, je reviendrai là-dessus, c'est beaucoup, c'est énorme, mais par rapport à la période dont je parle, c'est très peu. Il y avait beaucoup plus de CO2. Alors pourquoi y avait-il beaucoup plus de CO2? D'abord, la source, le volcanisme, était plus fort, et ensuite, l'altération était plus faible. Et pourquoi l'altération était plus faible? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais au début, il y avait assez peu de croûte continentale. Et comme il y avait peu de croûte continentale, il n'y avait pas d'altération ni d'érosion des sols, puisqu'il n'y avait quasiment pas de sol. Donc le CO2 était très puissant. Donc pendant longtemps, on a pensé que c'était le CO2, le gaz à effet de serre. Ceci dit, si vous pensez pouvoir compenser le soleil par un CO2 très fort, si vous faites des calculs, vous tombez sur des valeurs de CO2 tellement importantes que les premiers cratons, les premiers morceaux de terre dont on dispose à 3,8 milliards d'années auraient dû contenir de la sidérite. Mais en fait, on a une dizaine d'exemplaires, très vieux, peut-être plus même, et aucun ne contient de la sidérite. Ça veut dire que peut-être le CO2 n'a pas été le seul facteur. Alors là, j'arrive à tout ce que je vous ai dit maintenant, jusqu'à maintenant, du point de vue scientifique, c'est sûr. Ce n'est pas des choses nouvelles. Maintenant, j'arrive dans le domaine des choses nouvelles, et de ce point de vue-là, il y a encore des interrogations. Alors, quel est le gaz qui pourrait éventuellement avoir aidé le CO2 à un gaz à effet de serre qui aurait pu être un comparse pour le CO2 et qui aurait permis, en fait, à la Terre de rester chaude pendant longtemps? Alors, ce deuxième gaz, c'est le méthane. Alors, le méthane, quelles sont ses propriétés? Alors, le méthane est un autre gaz à effet de serre. Il est 30 à 60 fois plus puissant que le CO2. Et puis, pour une régulation, vous savez que quand vous voulez réguler un système, vous avez intérêt à choisir quelque chose qui puisse vous le réguler vers le haut ou vers le bas. Donc, le méthane, il peut faire partir le système vers le haut puisque c'est un gaz à effet de serre. Mais il se trouve que quand on regarde d'autres planètes comme Titan, le méthane a une autre propriété. C'est qu'à haute altitude, à cause du rayonnement solaire, il se dissocie en petites particules qui renvoient la lumière. Et ces particules-là, c'est ça qui donne cet aspect orangé à méthane, à Titan. C'est cette photolyse du méthane qui donne des aérosols, qui renvoie la lumière. Donc le méthane, à la fois, est un gaz à effet de serre, donc réchauffe, mais dans certaines conditions, peut refroidir. Donc ça, si vous voulez réguler un système comme la Terre, c'est un bon candidat, parce qu'il peut aller dans les deux sens. Alors vous allez me dire, ouais, mais le méthane. Et c'est là qu'on rejoint la vie. Alors moi, je suis physicien, modélisateur, je suis incapable de vous commenter ce diagramme-là. Hein. C'est un diagramme phylogénétique. Tout ce qui m'importe là-dedans, c'est que, contrairement à Titan, où il fait extrêmement froid, où il y a une physique très particulière, sur Terre, le méthane ne pouvait être que biologique. Alors ça, c'est très important. Pour qu'il y ait une source de méthane biologique, il faut de la vie dans les océans. Or, ce diagramme, ce qu'il montre, c'est que dès 3,8 milliards d'années, il y a ce qu'on appelle des archées méthanogènes. Et les archées méthanogènes étaient dominantes dans les océans et produisaient des quantités importantes de méthane. Alors, le méthane, donc, sur Terre, serait d'origine, à ce moment-là, purement biologique. Très bien. Donc, il y a deux gaz. Je résume un peu pour ceux qui sont perdus. Le Soleil est jeune. Sa capacité à réchauffer la Terre est faible. La Terre ne tombe pas en boule de neige grâce à deux gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane. Très bien. Maintenant, vous imaginez que si jamais, pour des raisons X ou Y, l'un de ces deux gaz venait à s'écrouler, alors là, il y aurait des accidents majeurs. Or, il y a deux accidents majeurs pendant les 4 premiers milliards d'années. Alors, ces accidents majeurs sont liés aux raisons suivantes. Alors, il y en a un que je vais vous décrire très brièvement et l'autre que je vais vous décrire un peu plus longuement. Le premier, qui est sûrement le plus intéressant, s'il a existé, c'est le fait qu'on observe, à 2,4 milliards d'années, lorsque l'atmosphère de la Terre devient oxygénée, une glaciation qui a pu être globale, ce qu'on appelle une « snowball Earth », c'est-à-dire que la Terre devient complètement glacée. Ça, c'est le premier grave accident, et c'est effectivement possible. Pourquoi ? Parce que quand les producteurs d'oxygène vont devenir majoritaires par rapport aux archées méthanogènes, eh bien, pour les archées méthanogènes, très peu d'oxygène est un poison. Donc, elles disparaissent. Elles disparaissent très rapidement. À l'échelle géologique, c'est une seconde. Disparaissant très rapidement, elles ne produisent plus de méthane, le CO2 ne suffit pas, et c'est l'englacement global, le premier. Fin du premier gaz à effet de serre. Reste le CO2. Le CO2, il va y avoir une deuxième glaciation globale il y a à peu près 700 millions d'années, beaucoup plus proche de nous. Et celle-là, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi le CO2 s'est écroulé, c'est des conditions assez particulières, et pourquoi il y a eu une snowball Earth et comment on en est sorti. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'histoire de la Terre des 4 premiers milliards d'années, elle est chaude. Il y a deux accidents majeurs qui ont peut-être conduit à une Terre complètement glacée pendant quelques millions d'années. Alors maintenant, je vais vous expliquer plus en détail la glaciation de 700 millions d'années. Pourquoi ? Parce qu'il y a 700 millions d'années, on sait reproduire la paléogéographie. Et dans nos modèles, on en a besoin. On a absolument besoin de la paléogéographie pour connaître la position des continents, la forme des océans. Il y avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de CO2 et la constante solaire était plus faible. Quelles évidences on a qu'il y a eu une glaciation globale à cette période-là ? Alors, en fait, il y avait trois énigmes différentes, enfin quatre. La première, c'est qu'on trouvait des preuves de glaciation à basse altitude et à basse latitude. Or, ça, c'est impossible. Vous savez bien que sur Terre, l'équateur, c'est l'endroit où il fait le plus chaud, où le cycle saisonnier est le plus faible. Donc, s'il y a des glaciations, elles sont forcément au pôle. Bon. Donc, ça faisait penser aux gens que s'il y avait une glaciation à basse latitude, il y avait une glaciation partout. Donc, c'était le premier élément. Vous allez voir, ce n'est pas le plus extraordinaire. Le deuxième élément qui est extraordinaire, c'est que des gens qui travaillaient sur le C13, alors le C13, c'est un isotope du carbone, carbone 12, qui a cette propriété, si vous voulez, de marquer un peu le fractionnement de la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vie sur Terre, eh ben le C13, il est tel qu'il est à la sortie des volcans. Or, c'est ce qu'on voit. On voit, à ce moment-là, 700 millions d'années, un C13 qui s'effondre et qui vient asymptotiquement à peu près moins 5 pour 1000. Et si aujourd'hui, vous montez avec un détecteur et que vous pouvez mesurer le C13 à la sortie d'un volcan, vous trouverez cette valeur. Et donc les gens se disaient, c'est quand même curieux, une baisse aussi énorme du C13 qui en plus vient se coucher quasiment aux valeurs qui correspondent à un non-fractionnement. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de vie. Et ça, c'était quand même impensable. La deuxième chose qui paraissait totalement extraordinaire, c'est que je vous ai dit que l'atmosphère s'oxygénait vers 2,4 milliards d'années. Mais avant, évidemment, les océans aussi n'étaient pas oxiques. Et donc, on formait ce qu'on appelle des banded iron formations, c'est-à-dire, en fait, on formait des groupes de fer rubanés qui, dès que l'océan s'est oxydé, ont disparu. Donc, à 2,4 milliards d'années, ils ont disparu. Ils ont disparu pendant près de 2 milliards d'années et à 700 millions, ils ont réapparu. Exactement comme si l'océan global était plus oxygéné. Et ça, ça paraît aussi impossible. Et enfin, la troisième chose, et ça, c'était publié de façon indépendante. Et la troisième chose, qui était de loin la plus extraordinaire, c'est que les gens voyaient des lits de tillite. Et au-dessus, alors, lits de tillite, ça prouve qu'il y a une glaciation. Mais ce qui était vraiment étrange, c'est qu'ils voyaient des caps carbonates, c'est-à-dire des montagnes de carbonates, au-dessus des lits de tillite, comme si c'était mis à faire très, 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 très chaud après la glaciation, et comme s'il pleuvait du carbone dans l'océan. Et ça, c'est incompréhensible aussi. Et à ce moment-là, est arrivé quelqu'un qui a dit bon, « Écoutez, je peux résoudre tous ces problèmes-là avec une seule théorie, c'est que le CO2 s'est écroulé et la Terre s'est englacée complètement. Et si la Terre s'englace complètement, il y a de la banquise sur les océans, il y a des calottes de glace sur les continents, il n'y a plus de cycle du carbone, le carbone ne réagit plus avec la surface terrestre, ni avec la surface océanique, puisqu'ils sont complètement couverts de glace, donc le C13 ne bouge pas, ça expliquait le C13, la banquise relativement épaisse empêche l'oxygénation des océans, ça expliquait les bifs. Alors, qu'est-ce qui explique les caps carbonates au-dessus des tillites? C'est le fait que, qu'est-ce qui fait qu'on va en sortir de cette glaciation globale? D'ailleurs, ça, c'est marrant parce que, une petite histoire, c'est que cette Snowball Earth n'a pas été découverte vraiment et décrite en 1990. Elle a été découverte en 1960 par un géologue. Et quand ce géologue est allé voir les modélisateurs en 60, les modélisateurs lui ont dit « Mais mon petit monsieur, si la Terre était englacée, imaginons un instant que la Terre se soit englacée, elle aura un albédo de 0,6. C'est-à-dire un pouvoir réfléchissant, ce serait une boule de glace de 0,6, alors que je vous ai montré des images avec une belle Terre à un albédo de 0,3, bien bleue et verte. Là, elle est entièrement réfléchissante. Toute la lumière qui arrive, ou une grande partie, est réfléchie. Et donc, elle ne peut plus sortir de là. Et donc, votre hypothèse ne tient pas la route parce que si la Terre avait été englacée, elle le serait encore. Et Hartland est rentré dans son laboratoire. On n'a plus entendu parler de Snowball Earth. Jusqu'en 90, où quelqu'un a dit « Mais pendant la Snowball Earth, le volcanisme continue. » Et donc, le CO2 émis par le volcan, au lieu de réagir avec la surface continentale ou marine, il se stocke dans l'atmosphère. Un peu comme l'expérience qu'on est en train de faire nous-mêmes aujourd'hui. Et donc, il se stocke dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'il y ait un méga effet de serre et que tout fonde. Alors, vous imaginez, à ce moment-là, l'atmosphère contient des centaines de fois la quantité d'atmosphère qu'on a aujourd'hui, et l'océan a été isolé, par contre. Et donc, ça se remet en route, ça se rééquilibre, et c'est un peu comme s'il pleuvait du carbone. Et donc, on retrouve les caps carbonates. Donc, cette théorie marchait pour tout. Alors, je vais vous montrer ce que les modélisateurs peuvent dire de ça. Ça, c'est une modélisation où on utilise, en gros, les modèles météo, hein, d'atmosphère, et les modèles d'océan, et on regarde ce qui se passe. Alors, les hypothèses que j'ai faites, il y en a une de fausse, vous allez me la trouver, je pense. J'ai pris la paléogéographie, exactement celle qu'il fallait. J'ai pris l'insolation, exactement celle qu'il fallait. Et puis, j'ai gardé le CO2 constant. Et qu'est-ce que je montre sur ces figures, hein, au fur et à mesure du temps qui passe, vous voyez qu'en fait, la Terre se refroidit, et puis, effectivement, elle va devenir une Snowball Earth, c'est-à-dire une Terre boule de neige. Et pourquoi c'est si facile à faire? C'est si facile à faire parce que j'ai oublié une chose, c'est que j'ai mis un CO2 actuel. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que le CO2 il n'était pas du tout actuel. Donc, c'est pour ça que c'est si facile. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle, un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les mains, un modèle de CO2, pour calculer aussi le CO2. Donc, ça se calcule de la façon suivante. Vous avez la source, c'est le volcanisme, le puits, c'est l'altération, l'érosion. Donc, ça dépend beaucoup de la masse continentale et de sa position. S'il y a beaucoup de continents en région tropicale, eh ben, on érode, on altère beaucoup. Par contre, s'il y a beaucoup de continents en région polaire, ça ne fait quasiment rien au CO2. Donc, ça, on l'a intégré. Et puis, on a aussi intégré une chose fondamentale qui va vous expliquer pourquoi le CO2 s'est effondré. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi le CO2 s'est effondré à 700 millions d'années et pas avant et pas après ? Eh bien, la raison, c'est la suivante, c'est que à 800 millions d'années, vous avez un continent en position polaire qui s'appelle la Rodinia. Ça, c'est déjà pas très fréquent d'avoir un continent en position, équatoriale. Et ce continent, il va se fragmenter en restant dans la bande équatoriale. Alors, vous allez me dire, et alors ? Et alors, en gros, on a des continents qui se regroupent et puis qui s'éloignent tous les 500-600 millions d'années. Donc, c'est pas très fréquent. Puis après, quand ils se fragmentent comme ça, enfin, n'importe comment, mais rarement comme ça. Enfin, pas plus comme ça qu'autrement. Or, s'ils se fragmentent dans la région tropicale, ce qui change beaucoup, c'est que toutes les zones continentales sont altérables et érodables. Et beaucoup plus quand c'est des petits continents que quand c'est un gros, comme la Sibérie, où au centre, c'est toujours assez aride et sec. Donc, c'est les meilleures conditions pour pomper du CO2 dans l'atmosphère. Alors ça, on va le montrer. On a donc pris un modèle, cette fois-ci, qui est couplé à un modèle de carbone. Là, vous avez ce que le modèle vous trouve à 800 millions d'années. Vous avez une Rodinia en position tropicale, qui est un énorme continent. Vous voyez que les températures que vous avez, c'est de l'ordre de 10 degrés. Et vous avez, non pas 300 ppm, comme j'ai montré tout à l'heure, mais 1800 ppm à l'équilibre. C'est-à-dire que vous avez un fort taux de CO2 qui permet à la Terre d'être chaude. Et puis, votre continent se fragmente. Il se fragmente, et du coup, pour les raisons que je vous ai expliquées, la température baisse énormément, on est à 2 degrés. Cette fois-ci, le CO2 baisse énormément, on est à 500 ppm. Et en fait, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle une snowball Earth. Donc ça satisfaisait tout le monde. C'est-à-dire que les modélisateurs pouvaient le faire, et on avait un cadre conceptuel pour toutes les évidences géologiques. Les seuls qui n'étaient pas très contents, c'était les biologistes. Pourquoi ? Parce que si vous avez une snowball Earth qui dure quelques millions d'années, vous vous dites, que fait la biologie ? Est-ce qu'il y a une rupture dans la biologie ? Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait quasiment que des prokaryotes et des eucaryotes. Mais même pour des... Alors, l'idée qu'il y a, c'est qu'on pense qu'il y a toujours des refuges chauds, comme vous connaissez les fumeurs noirs ou les sources chaudes, ou des refuges où la biologie peut se réfugier pendant le temps qu'il faut pour repartir après. Mais ça reste quand même une question, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est extraordinaire sur notre planète, c'était la continuité de la vie. Donc ça, c'est la fin, en gros, du premier temps de la valse. Il y a trois temps dans la valse que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est le temps le plus long, les 4 premiers milliards d'années, qui sont chauds, sauf à 2 périodes. Alors maintenant, on va passer au deuxième temps de la valse. Petit à petit, on va se rapprocher des préoccupations de Michel. Donc là, on a travaillé, on a discuté, je vous ai montré des choses à quelques milliards d'années, ce qui est important, c'est le Soleil. C'est vraiment le Soleil comme forçage climatique. Là, on va peut-être revenir vers des choses que vous connaissez mieux, à l'échelle de millions d'années, disons depuis 500 millions d'années. Bon, je vais vous montrer un petit dessin animé sur lequel vous allez voir des choses à partir de 250 millions d'années. Mais ce qui importe de comprendre, c'est qu'en fait, maintenant, une fois qu'on a passé le Cambrien, l'explosion cambrienne, le climat, il va être drivé aux échelles de millions d'années par essentiellement la tectonique des plaques et la dérive des continents et la surélection des chaînes de montagnes. C'est ça. Et avec ça, on a tout. Alors, une chose sur laquelle je veux insister, parce que c'est quelque chose qui reviendra à la toute fin de l'exposé, c'est que vous avez vu que pour 4 milliards d'années, j'ai deux périodes de quelques millions d'années de snowballers. Tout le reste, c'est chaud, il n'y a pas de calotte de glace. Maintenant, dans les 500 derniers millions d'années, est-ce qu'il y a beaucoup de calottes de glace ou est-ce qu'il y a surtout des périodes chaudes ? Il y a surtout des périodes chaudes. Par exemple, les dinosaures, ils ont pourtant vécu pendant plus de 100 millions d'années, de 220 jusqu'à à peu près 65, ils n'ont pas quasi touché une calotte. Donc, si vous voulez, le fait de disposer de calottes de glace comme on en dispose aujourd'hui au Quaternaire, comme les hominidés en ont vu, les dinosaures n'en ont pas vu. C'est-à-dire que nous, on vit dans un climat plutôt froid. Et ce que vous voyez là, c'est le fait que depuis à peu près 500 millions d'années, on a des périodes relativement chaudes, avec peu d'occurrences de calottes de glace. Alors maintenant, avant de passer au dessin animé qui va suivre, je vais vous l'expliquer parce que ça va un peu vite pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça commence à 250 millions d'années et on voit le visage de la Terre tel qu'il était. Et puis, on va vers l'actuel. Et on voit donc ce gros continent, qui là s'appelait le Gondwana, qui était pas mal basé sur l'hémisphère sud, se fragmenter, et vous allez voir l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud se séparer, enfin l'Afrique et l'Amérique du Sud se séparer. Vous allez voir l'Atlantique qui va venir en position, l'Antarctique qui va venir en position polaire. Vous allez voir l'Australie qui va partir pour se mettre à sa position. Et le truc le plus spectaculaire, c'est que vous allez voir la plaque indienne qui va déposer Madagascar au large de l'Afrique et puis venir taper contre le continent asiatique. Et ça, c'est le forçage dominant pour comprendre le climat et le forçage environnemental sur 250 millions d'années. Ça veut dire que vous donnez ça à des modélisateurs, ils peuvent vous dire quel type de climat il faisait. Alors, en fait, c'est vieux, ça. C'est-à-dire que Wegener et son beau-père, qui s'appelait Köppen, ils ont publié deux choses. Ils ont publié Tecto et Climat, et ils ont aussi publié, parce que Köppen était capable de le faire, comment évoluait la végétation au fur et à mesure de la dérive des continents. Ça, c'est des années 1920. En fait, tout ce qu'on a appris de fondamental depuis, c'est qu'on sait maintenant aussi calculer le CO2 atmosphérique, qui est fondamental hein, pour calculer le climat, et qui est nécessaire. Et ça, grâce au fait qu'on sait calculer maintenant l'altération, l'érosion. Et donc, on sait à la fois calculer, grâce au paléomagnétisme, la position des continents, et on sait calculer aussi le taux de CO2. Et donc ça nous permet, pour ce deuxième temps de la valse, le temps du million d'années, de dire des choses pertinentes sur le climat du Jurassique, du Trias. Bon, je passe là-dessus parce que je voudrais avoir plus de temps sur ce qu'on a fait avec Michel, mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Vous l'avez déjà vu défiler une fois, là hein? Bon, allez, hop. Bon, alors, juste une chose. Vous voyez là, le diagramme, regardez que celui du haut, parce qu'en fait, celui du haut, c'est un diagramme où on a mis la paléogéographie de la dernière grande glaciation en dehors du Quaternaire, c'est-à-dire en dehors du Groenland antarctique. Quand est-ce qu'il y a eu une glaciation importante? C'était il y a 300 millions d'années, vous voyez, c'est pas tous les jours. Donc, on s'est mis avec la paléogéographie, le taux de CO2, on a calculé les températures, et vous voyez, en fait, regardez toujours celle du haut, hein, qu'il faisait en température annuelle assez froid pour qu'il y ait des calottes de glace. Et je vais vous montrer l'albédo parce que c'est plus facile pour moi. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça, c'est le pouvoir réfléchissant l'hiver de l'hémisphère sud. Enfin, l'été de l'hémisphère sud, je veux dire. Au moment où je veux savoir s'il y a de la glace, de la neige pérenne. Donc je regarde, à la période où il fait le plus chaud, si j'ai encore du blanc, c'est-à-dire des valeurs d'albédo importantes. Ce qui se traduit par du rouge sur ce diagramme. Et donc vous voyez qu'effectivement, j'ai un albédo élevé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai de la neige, qui reste en été de l'hémisphère sud. Ce qui veut dire qu'avec mon modèle, je suis capable, et ça c'est quand même très important, avec les modèles climatiques actuels, on est capable aussi de prévoir l'étendue de la dernière glaciation il y a 300 millions d'années. Et si on regarde par rapport aux moraines qui avaient fait réfléchir Wegener à l'époque, eh ben, dans la petite zone jaune que vous voyez en bordure, on ne les a pas mises, mais on a à peu près la disposition des moraines qui prouve que l'extension qu'on calcule est à peu près correcte. Alors, c'est le seul exemple que je vous montre, mais il y en a plein d'autres, en fait. Alors maintenant, on va faire un grand pas, mais c'est toujours le deuxième temps de Laval. C'est-à-dire c'est toujours l'échelle qu'on a en tête, c'est toujours le million d'années. Alors ça, c'est quelque chose qui est différent dans la mesure où, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai montré, c'était la tectonique des plaques. J'ai beaucoup insisté sur pôle, équateur, position des continents, impact que ça avait sur le climat et sur l'environnement. Et maintenant, je vais commencer à rentrer un peu plus dans les détails et je vais vous montrer éventuellement les choses qu'on peut dire ou ne pas dire sur ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire les hominidés, mais aussi les Homo sapiens et les Néandertals. Donc j'ai deux, trois exemples. Alors en fait, ça c'est vraiment... Bon, quand on voit ce diagramme, en fait, on voit un peu tout ce qui est, à mon avis, à peu près fondamental pour un modélisateur. C'est-à-dire qu'on voit que il y a beaucoup, beaucoup d'hominidés à 2-3 millions d'années qui sont tous à l'est et qu'après, quand on commence à remonter dans le temps, on n'en voit quasiment plus, il n'y a plus que Aurorine et Toumaï. Avec Toumaï, qui a cette particularité qui fait qu'on voulait travailler avec Michel, qu'il est à l'ouest. Et que ce serait intéressant de savoir dans quel environnement, dans quel climat il a pu se développer. Alors, ce n'est pas un truc facile du tout, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on a fait, parce que nous, on voulait au départ travailler sur le contexte à l'échelle de millions d'années. Et ça, c'est plutôt un défi, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais vous montrer des résultats de modélisation, Les modélisations qu'on a faites, elles permettent, disons, de tester un peu la précédente révolution du point de vue paléontologique, c'est-à-dire le fait que l'East Side Story, par exemple. Mais elles ne sont pas du tout pertinentes pour tester les idées que Michel a fait émerger, qui sont que les choses, en aucun cas, ne se sont passées comme on pensait il y a 5 ou 10 ans. Et ça, ça reste un défi, c'est-à-dire la compréhension de l'environnement de Toumaï, pour nous, la compréhension des oscillations du lac Tchad, je vais en parler un petit peu, comment on passe du lac au mégalac, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue climatique. Bon, ça reste des choses à faire. Par contre, il y a d'autres choses qu'on a faites, puisque Toumaï a 7 millions d'années, c'est de regarder la surrection du rift africain. Alors c'est surtout là-dessus que je vais insister, mais avant, je veux dire un ou deux petits mots des défis auxquels on est confronté. Le fait de trouver Toumaï à l'ouest, et surtout le fait de le trouver dans une région où on ne s'attendait pas à le trouver, c'est-à-dire dans une région lacustre, comme l'équipe de Michel et Michel l'ont montré, ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes sur l'évolution, mais ça pose aussi plein de problèmes sur les climats. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi on crée des mégalacs Tchad, combien de temps ils durent, combien d'occurrences ils ont, et quel est le climat qui permet de les soutenir, ce qui n'est pas du tout évident. Et une autre question, c'est, ça c'est un diagramme que m'a donné Mathieu Schuster, c'est qu'en fait, il y a une répétition, ça on le sait, des mégalacs Tchad, mais pour l'instant, personne n'est capable de dire, avec un forage sédimentaire, quelle est la période. C'est-à-dire qu'on sait, grâce aux données paléontologiques, qu'il y a un certain nombre de données paléontologiques qui correspondent à des paléorivages du paléolac Tchad, ou d'un paléolac Tchad, je devrais dire. Donc ponctuellement, on sait qu'il y a eu des mégalacs Tchad. Mais on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, quelle est la fréquence, pourquoi ça a commencé, à cause de quoi. Et en fait, c'est ça un des problèmes, c'est de comprendre le cycle hydrologique de cette région du monde, pas simplement pour le lac Tchad, mais pour toute une zone qui va de l'Égypte au Soudan. Et à mon avis, c'est un des défis. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est différent. Parce qu'on était parti dans une stratégie différente, et aussi parce que c'est un peu comme le gars qui est sous le réverbère. Il y a un paléontologiste comme Michel qui vient nous voir, qui vient nous poser un problème. Nous, on regarde ce qu'on a dans notre boîte à outils, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas toujours pareil. Donc là, quand l'idée, ça a été de se dire, nous, ce qu'on voit sur des millions d'années, disons les 10 derniers millions d'années en Afrique, c'est la surrection du rift. Ça, c'est un truc fondamental. C'est un truc qui va changer le climat, qui va changer la végétation, qui va donc changer le paléo-environnement. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Ce que vous voyez au milieu, c'est une expérience où on a tenu compte du relief lié aux trappes, c'est-à-dire au volcanisme. Et ce que vous voyez à droite, c'est une expérience où on s'est mis avant le rift, ce qu'on appelle nos rifts. C'est-à-dire il y a à peu près 7 à 10 millions d'années, avant que le rift ne monte. Pour voir, et on a forcé nos modèles avec ça, en faisant des zooms à 50 km, de modèles globaux, pour voir qu'est-ce que ça change. Alors vous allez voir que les résultats sont malheureusement, bon ça a été quand même publié dans Science, mais ils sont malheureusement assez attendus. C'est-à-dire que maintenant vous avez les précipitations. Alors ça c'est important les précipitations, parce que évidemment ça pourrait, si par exemple, la circulation atmosphérique liée à la chaîne de montagne se sentait jusqu'en Afrique centrale, jusqu'au lac Tchad, et que ça modifiait le cycle hydrologique, on pourrait dire, ah ben voilà, ça a peut-être commencé il y a 7 millions d'années à cause de ça. Mais ce n'est pas le cas. Le lac Tchad, dans nos simulations, il n'est quasiment pas touché. Ce qui est important dans nos simulations, c'est ce qui se passe sur l'est de l'Afrique. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez monter le relief, l'est de l'Afrique va s'aridifier de plus en plus. Et ça, c'est carrément la végétation. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Ce que vous avez le présent, nos rifts et trappes. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, nos rifts correspondent à un transport d'humidité beaucoup plus grand, donc à une partie est-africaine beaucoup plus arrosée. Et au fur et à mesure que le rift va se construire, eh ben, l'est africain va effectivement se dessécher, alors que l'ouest africain va rester humide, que la bordure de l'autre côté ouest va rester plus humide. Moralité, avec ce qu'on a montré, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, ça a permis un changement climatique profond entre l'Est et l'Ouest. Sans doute que de ce point de vue-là, ce que Coppens avait suggéré est valable. Sauf que l'histoire se passe ailleurs non seulement à un autre endroit, mais à un autre moment. Et ça, on le sait grâce à Michel. Et donc, c'est un morceau de la connaissance qui est que, visiblement, le changement à l'échelle de millions d'années du rift n'est pas important pour le paléolac Tchad et cet environnement-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est le contexte à un million d'années. Qu'est-ce qui se passe sur des centaines de milliers d'années? Est-ce que, par exemple, les variations de précession, donc de mousson, ne vont pas changer de façon drastique le lac Tchad et son alimentation? Si, on pense que si. Et c'est là-dessus qu'on bosse, en fait, c'est de regarder, en couplant la paléogéographie comme on l'a fait et les paramètres orbitaux, si on peut arriver à maintenir un méga-lac Tchad dans nos simulations. Et c'est là, pour l'instant, qu'on en est. Donc, bon, voilà, on continue dans ce sens-là. Alors, j'arrive au dernier pas de la valse, le troisième pas, et le dernier pas, c'est en fait le quaternaire. Alors, comme je voulais vous illustrer des choses qui sont plus en rapport avec l'évolution des hommes, j'ai choisi quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on vous montre d'habitude. C'est-à-dire que, en général, on vous dit que depuis un million d'années, il y a 10 000 ans d'interglaciaire et puis 100 000 ans de glaciaire. C'est vrai, depuis à peu près 800 000 ans. Et en fait, si on regarde bien, si vous regardez bien cette courbe, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les 10 000 dernières années ont été relativement calmes. On peut même dire quasiment, quand on regarde le reste, encéphalogramme totalement plat. Et ça, c'est très important, parce que cette partie de courbe que vous voyez, vous voyez un petit accident là vers 8,2, mais ça c'est un lac proglaciaire qui est bon. Donc c'est en fait ça appartient encore à la partie de la courbe qui est complètement chaotique. Donc vous voyez 10 000 ans d'histoire de l'homme tranquille. C'est le temps qu'il a fallu à l'homme pour conquérir toute la planète tranquillement. Avant c'était pas le cas. Avant c'était extrêmement chaotique. Alors pourquoi c'était chaotique? Parce qu'il y avait non pas deux comme aujourd'hui, mais quatre calottes de glace. Il y avait l'Antarctique comme aujourd'hui, le Groenland comme aujourd'hui, mais il y avait aussi la Laurentide sur l'Amérique du Nord et la Fennoscandienne sur l'Europe du Nord. Et ces calottes, surtout la Laurentide, avaient tendance à perdre de leur volume de temps en temps et à lâcher des icebergs dans l'Atlantique Nord, ce qui perturbait tout le climat. Alors, je vais vous montrer une expérience où là, on avait plus de peau qu'avec Michel, dans la mesure où on pouvait répondre directement à la question posée. Donc là, c'est un autre paléontologue qui est venu nous demander si on pouvait expliquer climatiquement le fait que en fait, les Homo sapiens, à 40 000 ans, ils avaient passé les Pyrénées, ce qui était le plus dur, ils étaient arrivés au nord de l'Espagne, mais curieusement, ils étaient restés au nord de l'Èbre, ils n'étaient jamais descendus, enfin, ils sont descendus assez tard, au sud de l'Espagne, et ils se demandaient si, en fait, ce n'était pas lié au fait que, justement, à ce moment-là, il y avait, on le sait, ça, grâce aux sédiments marins, il y a eu une espèce de purge de la calotte Laurentide, qui a couvert l'Atlantique Nord de glace, d'iceberg. Il a fait très très froid, et du coup, ça aurait pu changer, ces icebergs ont dérivé jusqu'au large de l'Espagne et du Portugal, et ça aurait pu changer drastiquement les conditions climatiques et environnementales. Donc, là, ils avaient de la chance, parce que c'était il y a 39 000 ans, c'était un événement qu'on connaissait bien. Nos amis paléocéanographes pouvaient nous donner les variations de température océanique. On pouvait savoir quelle était la calotte, on pouvait savoir quel était le taux de CO2, on pouvait faire un zoom sur l'Espagne, et finalement, on pouvait apporter une réponse. Et vous voyez, la réponse, elle est là. En haut, à droite, c'est les températures. En dessous, c'est le cycle hydrologique. Donc, le bleu profond, vous voyez, c'est les icebergs. Donc, la calotte Laurentide, elle déverse des icebergs, il fait très froid en Atlantique Nord, et il dérive jusqu'au large de l'Espagne. Mais vous voyez qu'en Espagne, bon, il faisait froid, mais sans plus, quoi. C'est pas énorme, le refroidissement qu'on a. Donc, c'est pas tellement les températures, mais si vous regardez en dessous, par contre, vous voyez qu'il y a une aridification très massive au centre et au sud de l'Espagne. Et si on coupe notre modèle de climat avec un modèle, cette fois-ci, de végétation, ce qu'on voit, c'est que le sud et le centre de l'Espagne perdent leurs arbres au bénéfice d'herbacées, et par contre, que le nord reste encore assez favorable. Alors l'idée, la réponse qu'on donne, corrobore un peu l'intuition des paléontologues, c'est-à-dire qu'on pense que, évidemment, cet événement a refroidi un peu l'Espagne, mais c'est surtout qu'elle l'a aridifié, qu'en la aridifiant, elle a rendu le centre et le sud de l'Espagne pas tellement favorable pour des Homo sapiens, alors que les Néandertaliens, qui étaient là depuis longtemps et qui en avaient vu d'autres, ça ne les a pas gênés. Bon, les Néandertaliens ont fini par disparaître, quelques milliers d'années après quand même. Donc il peut se faire qu'en effet, si c'est vrai, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça prouve qu'une perturbation climatique a joué sur les populations humaines il y a 40 000 ans déjà. Si c'est vrai, parce que c'est quand même le fruit d'un modèle, donc on peut toujours se poser des questions. Mais enfin, tel qu'on le quantifie, c'est possible. Alors, j'en arrive au deuxième et dernier temps de la valse, c'est-à-dire, enfin, deuxième phase du temps de la valse, qui est, bon, très bien, tout ça c'est très bien, vous nous avez montré que c'était plutôt chaotique avant, que là on avait vécu une période calme et tranquille, et puisqu'on s'intéresse à l'homme, à l'hominidé et à nos successeurs, qu'est-ce qu'il en est du futur ? Alors, ce que je vais vous montrer dans la dernière partie, c'est qu'en fait, la Laurentide et la Fennoscandienne ont disparu il y a 10 000 ans, 120 mètres de niveau marin en plus, ça a fait, et la Laurentide et le Groenland et l'Antarctique, elles, sont bien mieux accrochées. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles sont à plus haute latitude, et puis pour le Groenland, parce qu'il est entouré du courant circumpolaire, et que, comme vous le savez sûrement, le plus grand désert du monde, c'est l'Antarctique. C'est l'Antarctique le plus grand désert du monde. Au centre de l'Antarctique, il n'y a rien en fait qui arrive. Donc il est très protégé. Est-ce qu'on est capable de le désinguer rapidement, comme naturellement les deux calottes de glace, Laurentide et Fennoscandienne, par le fait qu'on est en train de changer l'atmosphère ? Alors, je vais d'abord vous montrer une chose. C'est que il faut, bon, ça c'est un détail, mais quand vous vous intéressez à un problème, les modélisateurs, j'insiste parce que c'est quand même très important. Par exemple, vous vous intéressez aux calottes de glace. Bon, ben, si vous vous intéressez aux calottes de glace, il faut avoir un modèle de calotte de glace. Le temps de réponse d'un modèle de calotte de glace, c'est des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc, il vous faut un outil approprié à la question que vous posez. Si vous ne l'avez pas, c'est perdu. De toute façon, il faut le construire. Vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Mais il se trouve qu'il y a un groupe très fort à Grenoble qui fait des calottes de glace. Donc, on a couplé un modèle de climat à un modèle de calotte de glace. La deuxième chose, c'est que pour que vous soyez crédible, si vous dites « moi, je prédis telle ou telle chose », il faut que vous soyez capable au moins de restituer les choses dans le passé. Alors là, je vais vous montrer qu'on est capable de restituer la forme des calottes de glace depuis 120 000 ans. Alors, on est capable de les faire grossir jusqu'au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, puis de les faire déglacer jusqu'à l'actuel, en gardant celles qui sont toujours là, évidemment, c'est comme le Groenland. Alors ça, c'est le dessin animé que vous allez voir, et ça vous montre ça. Ça vous montre qu'on est capable d'initier des calottes de glace sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, qu'on est capable de les faire grossir, de les faire déglacer jusqu'à l'actuel où il ne reste que le Groenland. Alors ça, c'est quand même important parce que c'est quand même, bon, disons, un message qui consiste à dire, attention, on risque de faire fondre des calottes de glace. Si vous êtes capable de simuler tout ce qui s'est passé depuis 120 000 ans, on peut vous croire pour le prochain millier d'années, je dirais. On peut vous croire. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, on peut ne pas vous croire. Bon, alors, on a fait une expérience qui n'est pas du tout, je m'excuse, c'est en anglais, mais je vais vous expliquer, qui n'est pas du tout ésotérique, c'est-à-dire c'est une expérience parfaitement plausible. Vous changez le taux de CO2 atmosphérique de 1% par an de 1850 à 2150, donc vous obtenez comme ça 4 fois le taux de CO2 actuel, et puis ensuite, vous le laissez pendant des milliers d'années à 4 fois le taux de CO2 actuel. Puis vous regardez ce qui se passe. Bon, je vais passer sur la prochaine diapo assez vite, mais ce qui se passe, c'est que ce soit dans une hémisphère ou dans l'autre, on augmente la température globale de 6 à 8 degrés. Bon, ça, ce n'est pas une donnée qui est vraiment pertinente, parce que tout un hémisphère, une moyenne sur tout un hémisphère, c'est énorme. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais est-ce que, par exemple, ça s'attaque aux calottes de glace réellement ou pas ? Alors, là, il y a deux réponses. Donc, ça, c'est l'Antarctique. Hein ? La queue du poisson, c'est l'Antarctique de l'Ouest. Et le gros du poisson, c'est l'Antarctique de l'Est. Alors, ce que vous voyez, je vais vous montrer un dessin animé tout à l'heure, mais là, ce que vous voyez, c'est tous les 1000 ans. Et vous voyez qu'en fait, l'Antarctique de l'Ouest fond relativement, mais l'Antarctique de l'Est, qui est la plus grosse masse de glace, pas. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand vous avez une calotte de glace, c'est très facile à comprendre, il y a un budget, il y a l'accumulation, c'est-à-dire tout ce que vous recevez sur la tête, moins l'ablation, c'est-à-dire tout ce qu'ils font. Et c'est ça qui fait que votre bilan est positif ou négatif. En Antarctique, c'est très particulier parce que tout ce qui arrive comme accumulation, c'est très très faible. Donc c'est une très faible quantité, mais tout ce qui part en ablation en température, c'est très très faible aussi. Quand on va changer le climat, on va réchauffer le climat, on va augmenter l'humidité dans l'air, parce que plus on chauffe, plus il y a de possibilités d'humidité dans l'air. Donc plus on va augmenter dans un premier temps l'apport d'humidité avant que ça chauffe vraiment. Donc c'est l'accumulation qui commence, et un jour ce sera l'ablation qui l'emportera. Et pour l'instant, à 4 fois CO2 d'après nos modèles, eh ben, c'est plutôt le statu quo. Bon, alors, je reviendrai là-dessus, mais regardez ce petit film et vous allez voir qu'en fait, bon, c'est sur 5000 ans, ce que vous voyez, c'est que l'Antarctique de l'Est, eh ben, il ne bouge pas trop, il bouge un peu, mais bon. Et l'Antarctique de l'Ouest, plutôt, a tendance à perdre. Mais l'Antarctique de l'Ouest, c'est simplement 3 mètres de niveau marin, alors que l'Antarctique de l'Est, c'est 60. Ben, ceci dit, 3 mètres de niveau marin, c'est énorme. Hein. Bon, maintenant, on va voir ce qui se passe pour le Groenland. Le Groenland. Le Groenland, c'est différent. Le Groenland, il n'est pas en position polaire. Vous regardez sur une map monde, il n'est pas en position polaire comme l'Antarctique, déjà. Ensuite, il n'a pas de courant circum-antarctique, il n'a pas de courant tout autour de lui qui le protège aussi bien. Et puis, il n'est pas aussi loin. Donc, ce qui fait qu'il est beaucoup plus vulnérable. Et effectivement, l'Antarctique, le Groenland ne résiste pas. Le Groenland, c'est 6 mètres de niveau marin. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Ça, c'est sur les 5000 ans, ce qui se passe sur le Groenland. Alors vous allez, bon, les chiffres, je ne garantis pas les chiffres, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est clair, c'est qu'à 4 fois le taux de CO2, on va faire fondre le Groenland. Ça, c'est sûr. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dire de ces calculs? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la presse, enfin, dans la presse scientifique, mais je crois qu'il y a eu quelques échos dans la presse non scientifique, il y a eu des mesures de glaciers au Groenland et en Antarctique qui ont montré que ces glaciers avançaient 30 fois plus vite que ce que les modèles prédisaient. Pourquoi? Parce que ces glaciers, qu'on appelle les glaciers émissaires, ont 4 km de large, les mailles des modèles, elles en ont 40. Ils sont très mal représentés. Donc en fait, c'est sans doute bien pire que ce que je vous raconte, en fait. Donc même pour l'Antarctique, c'est bien pire. Et donc en fait, ça peut vouloir dire que l'environnement dans lequel les hominidés ont vécu, on ne sait pas très bien, mais l'environnement dans lequel les hommes vont vivre, ça peut... On sait très bien qu'on est en train de produire des perturbations suffisamment massives pour que non seulement le climat soit très chaud, mais qu'il soit éventuellement extrêmement chahuté à cause du fait que les calottes ne sont plus stables. Parce que les calottes, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Elles ne fondent pas comme ça. Elles relâchent d'énormes quantités d'icebergs, et puis elles se calment, et puis ça recommence. Ça, on le sait grâce au passé, enfin comment ont disparu les calottes précédentes. Donc, je vais faire un petit résumé pour le QCM qui sera distribué en sortant. Donc, si on regarde ce qui se passe à l'échelle de milliards d'années, alors là, le facteur forçant, c'est le... Oh là là là, Soleil. Le Soleil, c'est lui qui est important parce qu'en fait, il était jeune, il était relativement peu puissant, contrairement à d'autres choses. Et en fait, il n'avait pas la capacité de maintenir une température suffisante. Donc, il y a eu des gaz à effet de serre. Il y a eu 2 accidents éventuels de Snowball Earth liés à ces 2 gaz à effet de serre. Puis la constante solaire augmente et on sort de la zone dangereuse. On rentre dans le deuxième temps de la valse. Là, vous l'avez vu sous vos yeux, c'est les continents qui bougent. Et la surrection, pour ce qui est du rift africain, que j'ai montré aussi. Donc, c'est ça, c'est la tectonique des plaques qui va modifier le climat. Puis après, il y a le troisième temps de la valse, qui est le temps du quaternaire, le temps de l'émergence de l'homme. Et donc, l'homme, il a émergé dans un climat froid. C'est-à-dire que quand Toumaï est arrivé, à 7 millions d'années, l'Antarctique était déjà là, et quelques millions d'années plus tard, le Groenland allait s'englacer. Et ensuite, le fait d'émettre du CO2, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on est aujourd'hui à 385, je crois, ppm de CO2 dans l'atmosphère. Grâce aux bulles, vous savez, des enregistrements qu'on a dans Vostok, on est capable de tracer le CO2 au cours des âges jusqu'à 1 million d'années. Avec précision, puisque c'est vraiment les bulles de CO2, et ça oscille entre 200 et 280 ppm. Pour retrouver la valeur qu'on a aujourd'hui, à 381 ppm, il faut remonter 40 millions d'années en arrière. Bon, et alors? Et alors, il y a 40 millions d'années, il n'y avait pas de calotte de glace. Voilà, ben, j'ai fini, et puis maintenant, on peut poser les questions que vous voulez.